Bonjour, bonjour à nos amis de Radio Massabielle. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver comme ça, presque tous les mercredis, en tout cas plusieurs mercredis par mois, dans une série qui est consacrée aux catastrophes naturelles, avec un certain nombre d'intervenants qui sont spécialisés soit dans la prévention, soit dans l'intervention au niveau de ces différents types de mauvaises surprises qui peuvent survenir. Avec les pompiers, nous avons déjà vu les programmes et les systèmes de protection et de prévention et d'alerte qui existent au niveau national, départemental et communal. Nous avons vu plus récemment l'attitude à observer au niveau des foyers, des familles, puisque il y a des personnes à risque dans les familles, les petits-enfants, les personnes âgées ou handicapées. Et les accidents familiaux sont malheureusement trop nombreux encore. Et puis aujourd'hui, nous allons aborder un autre domaine bien délimité, qui est le milieu scolaire. Donc notre invité va pouvoir nous dire ce qu'il en est, la mise en place des différents systèmes, des différentes mesures au niveau des établissements scolaires. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, intervenir durant l'émission, si nous allons trop vite ou si nous sommes mal expliqués ou si vous avez vous-même un témoignage à apporter sur ce dont nous allons parler, vous pouvez nous appeler au 83 25 21 ou au 83 48 61. Alors, je vais d'abord saluer notre invité qui va se présenter à nous.
Oui, bonjour aux auditeurs, je suis Jean-Marie Terrac. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis conseiller directeur pour les problèmes de sécurité dans les écoles, les collèges et les lycées du département. Et mon rôle, c'est de développer cette prévention dont vous parliez il y a quelques minutes sur la prévention des risques naturels et technologiques et de développer aussi la prévention sur la sécurité routière, mais ce ne sera pas le thème d'aujourd'hui. Donc sur la prévention des risques naturels et technologiques, on va dire qu'on maîtrise, c'est-à-dire qu'en règle générale, les risques sont prévisibles, comme un cyclone, on prévient quelques jours à l'avance. Donc l'école fonctionne un peu comme chaque individu, c'est-à-dire que quand le phénomène arrive, on ferme l'école et on rentre chez soi. Donc on n'a pas trop de participation ou d'intervention à faire. Par contre, pour le risque sismique, qui est un risque imprévisible, donc qui pourrait arriver n'importe quand et aussi pendant le temps scolaire, c'est là où on a développé depuis de nombreuses années des actions de prévention dans toutes les écoles, collèges et lycées de ce département.
Oui. Alors et ça consiste en plus, ça te vaut été très médiatisé.
On essaie de. Parce que là, j'ai accepté votre invitation, c'est aussi pour pouvoir faire le lien entre ce que vous énonciez tout à l'heure, c'est-à-dire la prévention dans les familles et la prévention à l'école, parce qu'on a pu le voir lors de différents séismes, comme celui de Martinique en 2007, où le séisme n'était pas terminé, que les travailleurs parents avaient tout lâché pour prendre leur voiture pour aller à l'école. Alors qu'à l'école, tout est fait pour que il y a une organisation et, on va dire, une mise en sécurité de tous nos enfants.
Eh oui.
C'est le travail que l'on met en place. Donc ça commence dès le mois de septembre, puisque chaque directeur d'école et chef d'établissement reçoit, une lettre de mission, pas une lettre de mission, mais en tout cas un programme sur le premier trimestre, parce qu'on veut commencer tout de suite en début d'année à remettre en marche les différents automatismes. On va revenir sur ce mot-là tout à l'heure. Parce que dans la prévention pour les parents, on a tendance à dire quels sont les bons réflexes en cas de risque majeur, en tout cas en cas de séisme. Et en cas de séisme, on n'a pas de réflexe. C'est ça le problème, c'est qu'on va réagir en fonction de ce qu'on aura appris, de ce qu'on connaîtra. Et souvent, la réaction est inadaptée parce qu'on n'a jamais réfléchi à qu'est-ce que je fais si la Terre tremble maintenant, quel va être mon comportement.
Puis de toute façon, quand il y a un bon séisme, on n'a pas trop le temps de réfléchir.
C'est ça, c'est-à-dire que comme
le subconscient fonctionne avant.
Alors, c'est peut-être pas le subconscient, mais les automatismes. C'est-à-dire que si on a pris l'habitude d'eux, on espère que le jour où ça tremblera, on fera ce qu'on aura appris.
Ouais.
Si par contre on n'apprend rien, eh bien on fera comme on a connu par le passé, du n'importe quoi, c'est-à-dire des gens qui vont partir en courant, des gens qui... Mais ça, on ne devrait plus le voir dans les établissements scolaires, en tout cas de le voir de manière, je vais dire, épiphénomène, c'est-à-dire très très peu de cas. La grande majorité, 70 à 80% des adultes des établissements vont rester à leur poste et vont assurer le rôle et la mission qu'on leur a donnée. Et qui se sont d'ailleurs emparés et beaucoup impliqués, puisqu'on a beaucoup d'enseignants qui, dans leur classe, font déjà des simulations de séisme avec leurs enfants. Et c'est ce qu'on leur demande de faire au mois de septembre-octobre, parce qu'on a vu que les enfants ont besoin d'apprendre. Si on leur montre, on fait quelques simulations en septembre, quelques-unes en octobre, j'ai envie de dire, après, c'est bon pour l'année. Une
ouais.
piqûre de rappel en février, c'est-à-dire commémoration du séisme du 8 février 1843. On fait une petite piqûre de rappel, mais pour l'année, c'est bon. Ça veut dire que cette prise en compte des risques sismiques, si on la fait de manière rigoureuse, elle ne prend pas beaucoup de temps. Elle peut être très ludique et elle doit être très ludique. C'est-à-dire que on joue avec les enfants à s'amuser, à se mettre sous la table, à essayer de sortir le plus vite possible du rez-de-chaussée. Et donc, ça crée une espèce de... Bon, un petit lien dans la classe aussi. Les enfants sont contents que l'enseignant s'occupe d'eux, leur montre comment faire, etc. Donc, ça crée aussi une dynamique qui est importante. Et maintenant, là où on a encore du travail à faire, c'est sur la communication. Vous parliez de médiatisation, ce qui est très bien. Moi, je vous parle de communication, c'est-à-dire expliquer aux parents que, en cas de séisme, leur premier objectif, c'est pas d'aller à l'école. On les empêche pas de venir, que ça soit bien compris. On voit sur certains documents écrits, on dit aux parents, n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Comme si on pouvait dire à un parent de pas aller chercher son enfant à l'école. Sauf qu'en Guadeloupe, avec d'ailleurs le concours des pompiers, on a trouvé un adverbe qui change tout. On dit simplement aux parents, n'allez pas immédiatement chercher vos enfants à l'école.
Ouais.
Et dans un premier temps, on coupe les réseaux, comme les pompiers ont dû vous le dire, au gaz, électricité. On prend une bouteille d'eau. Ça permet de faire baisser un peu la tension et de pas arriver comme un dératé à l'école. De toute façon, à l'école, il faut que les parents le sachent, les enfants sont pris en charge. Donc ils n'ont pas à s'inquiéter. S'il s'est passé quelque chose, ce ne sera pas la volonté de l'école, c'est que voilà, il s'est passé quelque chose. Mais j'espère, parce qu'avec tout ce qu'on met en place, que dans 90-95% des cas, tout se passera bien.
De toute façon, se précipiter à l'école, ça ne sert à rien, puisque le séisme est déjà passé.
Voilà, et de toute façon, si on a vraiment un séisme fort, on aura des éboulements, on aura des arbres au milieu de la route, des poteaux, des routes impraticables. Donc les parents vont, s'ils ne se sont pas posé la question maintenant, ils vont être très inquiets de ce qui se passe pour leurs enfants, s'ils n'ont pas la connaissance. Mais s'ils ont vu l'enseignant, ils ont vu la directrice, ils ont même assisté à un exercice de simulation pour voir comment leurs enfants réagissent bien, comment ils se protègent bien, peut-être que là, il y aura moins ce souci de « j'espère que mon enfant va bien ». De toute façon, on se posera toujours la question, mais ça deviendra moins, un moment de panique, quoi.
Oui, il faut rappeler aussi que les bâtiments où les enfants sont scolarisés sont généralement des lieux sûrs, non seulement en cas de séisme, mais également en cas de cyclone. Quelle que soit l'intempérie, quel que soit le pépin qui survient, il ne faut pas que cet affolement soit lié à une crainte sur la solidité, des murs qui protègent les enfants.
Tout à fait. Alors, des dégâts, il y en aura. Ça, c'est obligé. Un tremblement de terre, sans fissures, sans dégâts, sans morceaux de béton qui tombent, ça n'existe pas. En tout cas, un fort. Mais on sait quand même que nos bâtiments ne sont pas en bon état, ils sont vieux. C'est clair, tout ce qui vieillit, fatigue. Hein. Je vous en parle en connaissance de cause. c'est comme ça, les choses vieillissent au fur du temps. Mais à un moment donné, elles ont été faites avec des normes de l'époque. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un gros travail de fait par les communes et par l'État. Ils sont en train de revoir le maximum d'écoles, de conforter ce qui est confortable, c'est-à-dire réparer ce qui peut être réparable. Construire de nouvelles écoles, il y a quand même de nouveaux collèges,
absolument,
de nouveaux lycées. Bon, mais il faut donner du temps au temps. Ce sont des choses qui demandent de la réflexion, qui demandent des études, qui demandent du travail, qui demandent de l'argent, des financements. Puis on sait bien que l'État actuellement est pas au mieux de sa forme. Ce qui fait qu'on laisse du temps, mais en même temps, nous on prend ça en compte. Par exemple, on sait que au rez-de-chaussée, et ça c'est nouveau, on a sorti ça depuis 2 ans, on l'a testé, ça fonctionne. Au rez-de-chaussée, on a vu comme pour le séisme du Japon. Parce que les Japonais sont
habitués,
les meilleurs au monde, ils ont des séismes toutes les 5 minutes, ils doivent faire, ils doivent savoir faire, donc il faut regarder ce qu'ils font. Et quand vous regardez les caméras de vidéo sur YouTube ou ailleurs, un Japonais, pour quitter le rez-de-chaussée, alors qu'il est dans un bâtiment aux normes parasismiques, il court. C'est-à-dire, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, quand il y a un tremblement de terre et qu'on est au rez-de-chaussée, on ne va pas sortir doucement, sans précipitation, on court. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un concept qu'on doit inclure. Donc maintenant qu'on sait que de toute façon, quand la terre va trembler, qu'on sera au rez-de-chaussée et qu'on va courir, on va apprendre à nos enfants à le faire. Et c'est ce que je demande aux enseignants, c'est-à-dire qu'en début d'année, on fait d'abord une première sortie pour voir que Max est bien avant Isabelle et que Antoine est derrière Caroline. Ils prennent l'habitude de sortir les uns derrière les autres. Et quand on fait, on chronomètre bien sûr, et il faut qu'ils soient suffisamment éloignés du bâtiment. Et dans les travaux qu'on a pu récupérer des scientifiques, on a vu que pendant le tremblement de terre, on aurait une dizaine de secondes pendant lesquelles on pourrait mettre en place une parade. On appelle ça une parade, c'est-à-dire réagir. Parce que le signe ne va pas être fort tout de suite. Avant, il y a d'abord des petites ondes, il y a un son, il y a tout ça.
Oui, oui.
Et tout le monde a entendu le son, que ce soit pour les Saintes ou pour la Martinique. Et donc ce son qui est sous nos pieds, on a des ondes qui ont une composante majoritairement verticale. C'est-à-dire que pendant un premier temps, là c'est 10 secondes, on a le temps de se déplacer. Donc on dit aux enseignants, bah, c'est simple, on chronomètre. Si la première fois, les élèves mettent 15 secondes pour aller à l'extérieur de l'école, bah, vous recommencez. On refait après une fois suivante, et là on va voir qu'ils en mettent 12, puis après ils vont en mettre 10, puis des... J'ai vu dans certaines écoles des enfants qui en moins de 6 secondes sont dehors. Quoi.
D'accord.
Mais ils se sont entraînés, et il faut que ça soit sous forme ludique, un peu comme si on était en sport. Alors on s'amuse, c'est un jeu, il faut que ça soit ludique, que ça reste pas... Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on faisait une simulation par an. Donc le directeur voulait que ça se passe très bien, les enseignants aussi, donc il y avait une grosse pression, un gros stress sur les enfants qui... ah bon, c'est grave comme ça. Non, non, il faut que ça reste... il faut que l'enfant, la terre tremble, il court, voilà, et le rez-de-chaussée, il court. Alors les pompiers me disent, oui, etc., qu'attendez, s'il tombe... Je dis, ouais, si on leur apprend à le faire, parce que je l'ai testé à l'école Gilles Curie à Capesterre-Belleau, qui est une école qui doit être construite, hein, puisque c'est prévu, le maire l'a prévu, il y a déjà un gros projet d'avancée, on doit sortir ces enfants de là. Mais il y a quand même 135 élèves au rez-de-chaussée. Et donc avec les enseignants, toute l'équipe éducative, on avait toute une matinée, un mercredi, travaillé sur qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On avait mis un protocole en place où on demandait aux enseignants du rez-de-chaussée, à chaque fois que les enfants sortaient, de les faire sortir en courant. Mais en courant d'abord doucement, puis de plus en plus vite. Et je leur ai dit, je reviens 2 mois après avec les pompiers pour voir ce que ça a donné. On est revenu avec le SDIS, coup de corne de brume, donc tremblement de terre qui commence. Et là, on voit 135 élèves qui sortent en courant en moins de 5 secondes. Et en criant, parce que c'était joyeux, quoi. Il fallait que ça le soit. C'est, faut du peps, quoi. C'est, faut pas être pris par la panique. Ah, la terre tremble, c'est, non, non, on sort. Et les pompiers de me demander, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Je lui dis, bah, c'est simple, il vient d'y avoir un tremblement de terre. Et c'est ce qu'on attend de la majorité des écoles, c'est-à-dire que l'enseignant, bah, se réflexe. Et l'habitude, prenne l'habitude de s'entraîner avec ses élèves, parce que, puis on parle aussi aux enseignants en leur disant que vous êtes l'adulte. Si vous, vous réfléchissez à votre propre protection, automatiquement, les enfants, ils sont derrière, ils vont vous suivre. Parce qu'actuellement, dans nos simulations, comme on fait semblant, ben, l'enseignant sort le dernier.
Ouais.
Allez, rangez-vous, sortez de... Non, c'est pas comme ça. En réalité, ce sera pas ça. Le plus près, ben, porte commence, mais l'enseignant va vers la porte aussi. Et dit aux enfants, allez, on y va. Il est près de la porte, il compte 5, 6, 7. Et à 8, il s'en va lui aussi. Parce que si, certains enfants peuvent très bien être tétanisés. Imaginez qu'il y en ait un ou deux qui soient collés sur leur chaise, et à leur tête sort, mais pas leur corps. Mais là, il ne faut pas que l'enseignant retourne les chercher. Si l'enseignant retourne, tous ceux qui sont sortis vont re-rentrer avec lui. Donc il faut partir avec les enfants et s'accroupir et attendre que ça se passe. Et après, quand le séisme est passé, s'il n'y a pas eu de dégâts, il va récupérer les deux derniers. Ou... Mais bon, c'est un peu le principe. On espère que, en fonctionnant comme ça, on aura le moins de victimes possible.
Alors, monsieur Thérac, la cible principale, ce sont les collèges.
Ah non, tout le monde, école maternelle.
Ah, depuis la maternelle?
Ah oui, en maternelle, on leur donne un petit temps, parce que vous savez, les enfants de maternelle et même d'école élémentaire, mais surtout en maternelle, ils marchent 2 par 2.
Oui.
Donc la première année, il y a cet apprentissage de, je marche avec mon copain d'à côté, devant moi, il y a, comme je vous disais, Marc et Isabelle, et derrière, il y a Antoine et Martine. C'est-à-dire que les enfants prennent, ils ont à peu près, ils en ont pour 1 mois ou 2, et au bout d'un mois ou 2, quand vous allez à l'école, vous voyez les enfants se lever, et quand ils sortent, ils sont toujours avec la même personne à côté d'eux,
d'accord,
les mêmes devant et les mêmes derrière.
D'accord.
Et s'ils n'ont pas ces repères-là, ils ont du mal à se déplacer.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que dans les simulations à l'école maternelle, on leur laisse un petit peu de temps. Et puis ça marche très bien aussi avec eux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on l'a testé à toutes les classes d'âge, jusqu'au terminal. Par contre, les deux endroits où je ne vais pas, c'est les crèches. Et c'est pour ça que tous les enseignants qui ont des enfants à la crèche, quand ils auront, entre parenthèses, garer les enfants, c'est-à-dire qu'ils auront compté leurs élèves, tout le monde est là, tout le monde va bien, l'école va s'organiser pour pouvoir les libérer, qu'ils aillent à la crèche chercher leurs enfants. Et le deuxième groupe, c'est à l'université.
Ah.
Alors ça, je ne sais pas ce qui se passe.
Oui, les étudiants, ils ont eu l'habitude quand même.
J'espère que ce qu'ils ont appris, voilà, exactement, à l'école, collège et lycée, qu'il en reste un peu quand ils sont à la fac.
Oui.
Je pense. Parce que maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont formés, qui vont avoir de bonnes réactions, j'espère, je le souhaite. C'est l'objectif, hein, de ce travail.
Mais de même, quand vous êtes le référent au niveau du rectorat, est-ce qu'il y a des référents au niveau de chaque établissement?
Oui, alors, ça ne fonctionne pas comme ça, hein, parce que l'établissement doit fonctionner en groupe. Alors donc, on a ce qu'on appelle des groupes ressources. La tête, c'est le chef d'établissement. Le noyau dur, ben, il est avec son gestionnaire, son adjoint, le CPE, des gens qui sont tout le temps là dans l'administratif, et viennent se greffer des collègues qui sont en SVT, souvent, sciences humaines, qui viennent les accompagner. Et puis ce groupe, c'est en fin de compte toute la communauté scolaire. C'est-à-dire que chaque individu est responsable de lui et des élèves qu'on lui a confiés. Parce qu'on le sait aussi maintenant, en cas de tremblement de terre, c'est l'adulte qui a les enfants qui devra réagir avec eux pendant le séisme. Ce n'est pas le chef d'établissement qui va sortir de son bureau pour aller voir chaque classe, ce n'est pas possible. On est dans l'ordre de la minute, vous voyez, ça va très très vite. Donc le surveillant qui est avec en permanence doit gérer les enfants, la documentaliste qui a des gens dans son bureau, c'est pareil, la CPE qui reçoit des parents, vous voyez, tous ces cas de figure sont envisagés par l'école, le collège et le lycée, c'est ce qu'on leur demande de faire.
Alors, j'aimerais vous poser une question au niveau architectural. Dans les espaces qui reçoivent du public, par exemple les salles de cinéma, il y a ce qu'on appelle des portes anti-panique.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une entrée officielle, principale, pour entrer dans la salle, mais il y a des portes, des issues de secours, où il suffit de pousser un gros loquet pour que la porte s'ouvre et qu'on puisse évacuer. Est-ce que les établissements scolaires sont suffisamment pourvus de ces issues dites de secours? Parce que ceux que je connais, généralement, il n'y a qu'une seule, seul portail.
Alors, si vous voulez, dans tout ce que vous dites, c'est-à-dire que là, il y a un mélange qu'on a fait pendant longtemps, dans le vocabulaire. Quand vous dites évacuation, automatiquement, moi, dans ma tête, c'est incendie. Pour un risque sismique, il n'y a pas d'évacuation. On quitte le bâtiment. Imaginez, vous êtes à l'étage. Une évacuation, quand il y a l'incendie, c'est le feu. On ferme la porte et on sort, on part vite. Il faut qu'à un moment, il y a le feu, donc on se dépêche. Après un tremblement de terre à l'étage, on ne se dépêche pas. Est-ce qu'il reste encore un balcon? Est-ce qu'il y a encore des escaliers? Donc là, on va tenter de quitter le bâtiment. On n'évacue pas. Ouais, c'est une première chose. Après, vous dites issue de secours. Les issues de secours ont été faites, ce qu'on appelle les portes anti-panique, pour l'incendie. Pour le CI, ce n'est pas prévu. Et dans toutes les salles de classe, il y a une remarque que tout le monde fait, c'est que les portes s'ouvrent à l'envers.
C'est-à-dire,
au lieu de pousser, on tire. Parce que si on poussait les portes, elles bloqueraient le passage dans le couloir,
sur
le balcon.
D'accord.
Donc c'est plus pratique de les faire rentrer par l'intérieur. Sauf qu'en cas de sortie, surtout au rez-de-chaussée, comme il faut tirer la porte, c'est quelque chose que l'enseignant doit intégrer. Il sait que soit il laisse sa porte ouverte, soit il sait qu'il doit perdre une seconde pour l'ouvrir. Mais il lui reste encore 9 secondes. Vous voyez, puis il y a d'autres points de détail. Par exemple, on l'a vu pour le séisme de Martinique, il y a dans certaines entreprises des femmes qui étaient sorties rapidement, qui avaient réagi comme il faut. Ils étaient au rez-de-chaussée, ils sont sortis. Mais après le séisme, ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié leur sac. Et une des consignes, un des principes, c'est de ne pas revenir en arrière. Et là, elles n'avaient qu'une seule envie, c'était de retourner dans le bâtiment pour récupérer le sac. Quoi. Parce que autant chez nous, les garçons, on a quoi? Le téléphone portable, la clé de la maison, la clé de la voiture. On n'a pas tellement de sacs les uns les autres. Par contre, les dames, les arrivées dans le sac de votre femme. Ça veut dire que maintenant, on l'intègre aussi. On dit aux enseignantes, du rez-de-chaussée comme aux étages, n'oubliez pas votre sac. Mais ça va à l'inverse que ce que proposent les pompiers, puisque les pompiers disent de tout laisser pour être plus alerte, pour être, plus mobile, pour ne pas être gêné par un sac dans le dos. Là, on dit aux adultes, surtout aux femmes, prenez votre sac. Ça, c'est que là, au rez-de-chaussée, anticipé, le sac est près de la porte. C'est comme ça que vous faites maintenant. Il est près de la porte avec le téléphone portable, les clés de la maison, enfin, tout ce qu'il y a, le reste. Le reste, on ne peut pas nommer, parce qu'il y a tellement de choses, c'est fou. L'autre fois, ma femme m'a dit, cherche un truc dans mon sac, plus jamais je ferai ça. Alors, le truc, tu as l'impression qu'il n'y a pas de fond, tellement il y a de choses dedans. Donc, le sac, obligatoirement, tu as la porte. Mais aux étages, c'est plus simple, parce que la parade aux étages, c'est de rester sur place. Quand vous êtes seul dans un bureau, je pense, je sais pas moi, à la sécu ou ailleurs, l'adulte, il est tout seul. Il est responsable de ses actes. Donc s'il veut courir, il court. S'il veut descendre, il descend. S'il veut s'abriter, il s'abrite. Dans l'école, on est responsable de 20, 25, 30 enfants. Et quand on est à l'étage, on n'a pas le temps de descendre. Même si on est au premier étage, le temps est insuffisant. On va être pris pendant les fortes secousses dans l'escalier. Et souvent, dans nos escaliers, on a des décorations. Vous savez, les trucs en béton percé, là.
Ah ouais.
L'espèce de, pour laisser passer l'air, ces choses-là ne sont pas solides. Ça peut tomber. L'enfant est là dans l'escalier. Ça n'a pas de sens. Donc on dit aux étages de se mettre sous les tables. Alors on est critiqué, on dit oui, pourquoi pas l'angle du mur. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à se protéger la tête. On n'a pas de casque. Au Japon, ils ont des casques dans les salles de classe. Nous, on n'a pas de casque. Bon, déjà, on laisse tomber. La table sert de casque. Nos collègues pompiers qui sont revenus d'Haïti, qui ont pu assister à des choses assez dramatiques, où les bâtiments s'étaient carrément effondrés, ils ont quand même sauvé des gens qui étaient allongés sous les tables. Les gens accroupis, puisque le bâtiment s'effondrait, avaient écrasé les tables et les gens en même temps.
Ouais.
Par contre, allongés, la table ne l'avait pas touché les gens.
Ouais.
Donc la nouvelle consigne, c'est de dire aux enfants, pour la simulation, on s'accroupit, mais le jour d'un vrai tremblement de terre, on va s'allonger sous la table. Et on sait que ça devrait suffire, ça donne un espace de vie suffisant.
Ouais.
Alors toutes les histoires, on vous dit de vous mettre à côté de la table, de vous mettre, c'est du n'importe quoi. Moi j'ai des images de séisme en Californie, où vous avez une table qui est intacte, et à côté de la table, il y a une poutre qui s'était décrochée. Donc si les gens s'étaient mis à côté de la table, ils étaient morts. Donc ça fonctionne bien. On l'a vu au sein pour le service des Saintes, c'était une école à terre de haut. Il y a des morceaux de béton, des gros bouts de béton qui étaient tombés sur des vieilles tables en bois. La table était impeccable. Donc l'enfant qui aurait été dessous aurait été couvert de poussière, simplement.
D'accord.
Moi, je pars du principe que ça doit... Et nos bâtiments, c'est... Ça n'a pas été fait comme en Haïti, il ne faut pas exagérer. Quand même, il y a eu Alitur. Alitur, c'était quand même pas n'importe qui, quoi. Il a quand même fait des constructions... Alors, il y aura des dégradations, c'est sûr. Je vois le lycée de Bainbridge. Les gens ont peur du lycée de Bainbridge. Alors, c'est vrai qu'il y aura des dégradations, mais la structure elle-même va tenir. Et ce qui est inquiétant, c'est que les gens vont avoir tendance à prendre les balcons et les escaliers, là où c'est le plus fragile. Alors que dans la salle de classe, c'est un collègue de physique qui me disait, il a essayé de percer un jour avec... je crois que c'était une mèche en tungstène dans le mur en béton porteur. Il a explosé la mèche. Il n'arrivait pas à percer le mur. J'ai rencontré l'architecte qui était jeune à l'époque, qui s'appelait... il était au rectorat... j'ai son nom sous le bout de la langue. Il a suivi les travaux de la construction de Bainbridge. Il m'a dit, on a fouillé énormément profondément, que les tiges, ils voulaient mettre des tiges lisses. Ils ont mis des tiges torsadées. Donc vraiment, c'est du solide, quoi.
Ouais.
Alors par contre, les avancées en béton... Les décorations qui ont été mises, les escaliers qui ont été raccrochés au bâtiment, tout ça, c'est pas du solide.
D'accord.
Mais la structure elle-même. Alors, essayer de faire passer ce message, c'est difficile. On a eu des répliques des Saintes, on a vu des collègues de Bainbridge, en tout cas, c'est une histoire que m'a raconté une lycéenne. Troisième étage, l'enseignante s'est levée en hurlant et partie en courant. Et tous ses élèves l'ont suivi en courant. Et en hurlant aussi. Et c'est arrivé en bas où la jeune fille me dit, j'avais pourtant dit que je ne laisserais jamais mon sac, et bien c'est arrivé en bas que je me suis aperçu que j'avais laissé toutes mes affaires.
Ouais.
On s'est aperçu de ça aussi, la panique est contagieuse.
Ah oui, absolument.
Donc vous voyez, toutes ces choses-là, on essaie de les mettre bout à bout, et on lance des réflexions auprès de l'adulte. Parce que c'est l'adulte qui va gérer l'enfant. Après, les enfants, bon, on l'a vu que, pour les Saintes par exemple, que ce qu'ils avaient appris à l'école, ben, marchait à la maison.
Parce
que la société passée, ça.
Précisément, tout ce qu'on apprend aux élèves, c'est aussi dans le but que ça se répercute au niveau de la famille. Que,
pas vraiment. Moi, je dis que c'est ce qu'il faudrait. Mais vous voyez, j'ai eu cette réflexion-là il n'y a pas très longtemps, parce que bah, si j'ai regardé un espèce de publicité, on voit un homme et un enfant qui parlent en même temps. Et je dis ça, c'est amusant, parce qu'il y a 20 ans de ça, quand on me disait « les enfants vont transmettre aux parents », j'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. C'est le parent qui transmet aux enfants.
Oui,
le vecteur, c'est ça. Mais lancer la discussion, oui, pourquoi pas.
Non, mais on voit bien que, par exemple, en voiture, l'enfant dit « Papa, tu n'as pas mis ta ceinture ».
C'est pas normal.
Ou « Maman, tu téléphones en conduisant
». Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années.
Oui, mais on peut justement espérer qu'avec cette nouvelle façon de fonctionner
dans
les familles...
Oui, mais l'éducateur, c'est qui? L'éducateur, c'est bien le parent. C'est l'adulte, c'est pas l'enfant, l'éducateur.
Ouais.
Ça, c'est un... J'ai du mal à rentrer ça, parce qu'on me l'a toujours dit, parler aux enfants, ils parleront aux parents. On essaye, mais bon, c'est... Quand le parent n'a pas envie d'entendre, il n'a pas envie d'entendre. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut que dans les familles, on en discute. Et d'ailleurs, on a fabriqué un guide, on a conçu un guide pour les enfants, on en a fait un pour l'école le primaire et un pour le collège-lycée, où on demande à l'enfant d'en parler à ses parents le soir.
D'accord.
De parler, de raconter les simulations qu'il a pu faire aussi à l'école.
Ouais.
Pour que le parent, quelque part, en soit rassuré, s'interroge. Et à la limite, se disent, mais pourquoi je fais pas ça dans mon entreprise? Parce qu'on parle des collèges, c'est les entreprises, ils font quoi? C'est pas obligatoire. Alors, il y a le document unique, il y a le registre de sécurité, il y a les exercices incendie, oui, je me trompe pas. Par contre, des simulations séismes, très peu d'entreprises le font. Alors, les entreprises de pointe, EDF, pour pas les nommer, il y a eu les Silventillais, il y a eu... quelques entreprises comme ça qui, pour le personnel, ont décidé de mettre en place des simulations. Parce qu'il faut bien se rendre compte pourquoi on fait tout ça. Ben, on fait tout ça pour que sauvegarder des vies, et puis ensuite pour que l'activité économique puisse reprendre. Imaginez une entreprise qui perd la moitié de son personnel parce que les gens réagissent n'importe comment. Comment l'entreprise se remet au travail? Alors l'enseignant, c'est pareil, il faut que l'enseignant soit debout pour que l'école puisse reprendre assez rapidement. Mais un enseignant dont la famille n'a pas réagi bien parce qu'il était à l'entreprise... Imaginez, je perds ma femme, attendez, je m'occupe plus de rien, j'arrête, quoi. Vous voyez, il faut pas qu'il y ait... il faut conserver la vie pour pouvoir reprendre cette vie-là.
D'accord.
On aura un moment de flottement, les secours se mettront en place, comme on l'a vu dans tous les pays du monde. On a donc le voisin qui a le tractopelle qui va commencer à l'utiliser sans attendre des ordres d'ailleurs. Les téléphones ne fonctionneront pas. Enfin, oui, on va tous s'isoler, mais on va commencer... pour ceux qui ont vécu Hugo, ça a été comme ça, quoi. Le matin, on s'est réveillé. Enfin, pour ceux qui ont pu dormir... Et puis on a regardé autour, puis on a commencé à ranger les uns les autres, quoi. Puis tout s'est mis en place, les secours sont arrivés. Maintenant, ce sera encore plus rapide. encore plus rapide, puisque tous les services de l'État ont fait beaucoup de progrès dans ce qu'on appelle les protocoles.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on a des choses à faire. On a eu le cyclone Lady. Pour l'ENI, par exemple, on a déjà des chefs d'établissement qui, voyant l'inondation autour de leur établissement, avaient décidé de garder les enfants pour le soir. Vous voyez, ça rentre, ça commence à venir. Et on avait d'autres directeurs d'école qui avaient déposé les enfants devant la porte, qui étaient rentrés chez eux. On avait dit évacuer, donc évacuer, les parents ne viennent pas, mais on met les enfants dehors. Et ça, c'est des cas, à mon avis, qui devraient plus se reproduire.
D'accord.
Je vous dis, on est à 90, presque 95% d'établissements qui m'ont rendu un papier montrant la réflexion mise en place dans l'établissement.
D'accord.
C'est pas, je parle avec, sur une base solide, on va dire.
Alors, monsieur Tégac, la mission que vous exercez au niveau du rectorat de Guadeloupe, est-ce que c'est une mission qui est particulière, qui est une initiative locale, ou est-ce que dans tous les rectorats de France, il y a ce...
Alors, dans tous les rectorats de France, vous avez ce qu'on appelle un coordonnateur académique pour les risques majeurs. Ça existe dans toutes les académies, mais certains ont plus ou moins de grains à moudre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas trop de risques. Celui qui est à Paris, par exemple, lui, son risque principal, c'est la crue de la Seine.
Oui.
Ouais, c'est un jour ou l'autre, ça arrivera, donc ils travaillent beaucoup là-dessus. Puis ils ont des plans Vigipirate, etc. Des choses pour lesquelles, nous, ça va encore. Le risque, qu'on appelle ça radioactif, pareil, on n'a pas de centrale nucléaire. Donc, on a quand même des usines Céveso. Vous voyez, mais on a surtout le risque naturel. Et c'est pour ça qu'on est, plus en avance que l'Hexagone sur la prévention des risques naturels. Quand vous avez un cyclone, les gens ne sortent pas. Dans l'Hexagone, on leur dit attention, vigilance, orange pour forte neige. Ils sont tous dehors, puis vous voyez la télé après, ah oui, j'ai été bloqué par la neige. Bon, t'avais dit de ne pas sortir. Ouais. Nous, on a quand même une rigueur par rapport, je pense que les cyclones nous ont un peu formés. Donc on a cette rigueur-là. Bon, s'il y avait un séisme, de toute façon, je crois que pendant un premier temps, ce serait localement, les gens s'organiseraient. On sait que les communes, vous en avez parlé, hein, ont mis en place les plans communaux de sauvegarde. Donc, bon, pour l'instant, c'est beaucoup de papier, mais on espère que, vous dire que c'est pas très vieux, hein, ça a un an ou deux, que les choses vont commencer à se mettre en place. Il y a de plus en plus de formations. J'ai des collègues, vous avez dû avoir, monsieur Antenor Abazoc, qui est partout et tout le temps. Et, pourvu qu'il tienne, continue à dire comme ça. Hein. Si tu nous entends, bonjour à toi. Parce que c'est vraiment un travail formidable, quoi. Bon, on a besoin de ça. Les gens ont besoin d'entendre parler de ça. Et surtout, il faut que la crainte baisse. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est de s'occuper de ce qu'on a à faire, nous. C'est-à-dire que nous, on a ce qu'on appelle des fiches, missions, un peu, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je fais ma mission. Donc l'enseignant, c'est s'occuper des enfants. Je ne vais pas m'occuper de ce que fait le maire, ce que fait la police, ce que fait les parents. Je m'occupe de ma mission.
Ouais, ouais.
Et je fais confiance dans l'autre pour faire la sienne.
D'accord.
Et ça, on l'a vécu pour le séisme de... C'était lequel ou c'était comme ça? Je crois que c'était Martinique. C'était séisme Martinique. Et là, après, donc, il était 14h05, un truc comme ça. C'était, non, 15h, 15h00, exactement à 15h. Et quand on a eu une réunion avec les responsables, les gens disaient, oui, j'ai essayé de vous joindre pour savoir. Non, non, on n'essaye pas de joindre. Le téléphone ne sert à rien, on le sait. On applique ce qu'on nous a dit de faire. Donc on m'a dit, je conserve les élèves, je les garde et j'attends que les autres viennent à ma rencontre. Et là, on va attendre peut-être 5h, 6h, 7h, mais à un moment donné, on va voir arriver le maire, avec les services de la cantine, avec des bouteilles d'eau, avec... Attention, le maire n'est pas chez lui à dire la terre a tremblé, tant pis, quoi. Ils vont mettre en place, eux aussi, leur protocole. Et c'est en ça, c'est cette confiance-là qu'il faut qu'on arrive à développer aussi entre les différents,
acteurs.
Voilà, les impliqués, parce qu'on sera tous impliqués.
Alors, je voulais également vous poser une autre question, puisque vous avez une expérience, une expertise, comme on dit, et que tous les rectorats font ce type de travail, est-ce qu'il s'est développé une espèce d'échange en ce qui nous concerne avec les autres îles de la Caraïbe?
Alors, jusqu'à maintenant, vous savez, moi je fais pas trop de politique, c'est pas comme ça qu'on doit, je dois vous annoncer, aborder le sujet. Mais je me suis dit, c'est un peu comme celui qui va s'occuper du voisin alors qu'il n'a pas fini de travailler chez lui. C'est-à-dire que notre maison n'était pas construite, c'est-à-dire qu'on avait besoin de bâtir tout ça. Donc je me suis occupé de ce qui se passait chez moi et de ce que je pouvais dire à la Guadeloupe, qu'est-ce qu'on devait faire pour l'île, etc. Et tant que je n'avais pas fini pour l'île, qu'est-ce que je vais aller m'occuper de la Martinique, de Sainte-Lucie, de Mexique ou ailleurs? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien aller à l'extérieur, s'enrichir des expériences des autres, etc. On relit les comptes rendus, on a des retours, mais on s'est aperçu qu'on était, à part sur les constructions, sur le comportement, on était très en avance par rapport à d'autres. Et on avait appliqué aussi, on avait transformé ou adapté toutes les recherches faites par les scientifiques, on les a adaptées au comportement à avoir en Guadeloupe.
Oui.
Par exemple, ce que je dis dans les écoles ne fonctionnerait peut-être pas obligatoirement en Martinique. En Martinique, si, mais en Haïti, non. Parce qu'en Haïti, les ondes n'étaient pas tout à fait les mêmes.
D'accord.
Les ondes ne se déplaçaient pas de la même manière, on n'a pas les mêmes sols.
Ouais.
Donc il y a des réactions différentes. Les ondes de surface qui sont destructrices, on le voyait en Haïti, quand vous regardiez les caméras de surveillance, la caméra elle montait très légèrement, c'était les fameuses ondes P, étaient arrivées derrière le tronc d'onde S, on les voyait partir de droite à gauche, et d'un seul coup on voyait au fond les bâtiments monter et redescendre. Ça, ce sont les ondes de surface. On en a peu dans les Antilles, enfin, en tout cas sur les Martinique-Guadeloupe. Les scientifiques nous disent, hein, je ne fais que répéter, ces ondes de surface fonctionnent dans des terrains homogènes. Et nos terrains ne sont pas homogènes. Donc on n'a pas ce ressenti. Par contre, les ondes primaires qui vont être composantes verticales, c'est aussi dû à cette fameuse subduction. Et puis ensuite, les ondes de cisaillement, elles étaient assez faibles au Sainte, puisque la faille était un peu plus faible, n'était pas très grosse, mais elles risquent d'être plus fortes pour le séisme qu'on attend.
Mais je voulais dire surtout au niveau comportemental. Les règles qu'on demande à appliquer dans les écoles.
Non, mais on les fait évoluer. Alors le problème aussi, ça c'est, on va à l'encontre certaines fois du risque incendie. Imaginez, si on doit sortir vite dans une école primaire, par exemple, on devrait mettre en bas les CM, puisque les CM sont plus grands et courent plus vite, et mettre à l'étage les tout petits. Sauf que les tout petits, s'ils sont à l'étage, à chaque fois qu'ils doivent descendre, ils ont des escaliers à prendre. Ouais. Donc les pompiers préconisent que pour qu'il n'y ait pas d'escalier à prendre en cas d'incendie, qu'on les mette au rez-de-chaussée. Donc là, on arrive à un moment donné, est-ce que le bâtiment risque à plus de chances de prendre feu et on voit plus de chances de subir un séisme. Mais le problème, c'est que le feu, c'est hyper normé, alors que pour le risque sismique, les seules normes qui existent sont les normes parasismiques. Il n'y a pas de normes comportementales. Donc on est en avance sur tout ça, hein, je pense, parce que quand je rencontre mes collègues de l'Hexagone, c'est nous qui leur apportons des éléments. On a commencé à publier, donc on a un site, on balance des informations. Pour l'instant, j'ai pas de retour en me disant « Hey, Terrax, c'est du n'importe quoi ce que tu me racontes. » Pour l'instant, ça va, donc je touche du bois. Mais j'avoue que si des fois, on est un peu... On essaye d'être logique, parce qu'on a aussi cette chance, c'est qu'on a vécu plusieurs séismes. On a vécu, en tout cas, sur les trois possibles, on a déjà vécu deux. Le séisme de surface, c'est celui des Saintes. Et vous êtes près de la faille, vous le sentez très fort et ça fait très mal. On a senti celui de Martinique, c'était en grande profondeur, il est à 150 km de profondeur. Maintenant, celui qu'on attend, c'est à l'affrontement entre les deux plaques. Donc là, on attend, quoi.
Okay.
Mais on attend, mais pas les bras ballants. On se prépare.
Et alors, au niveau de cette préparation, est-ce qu'il y a des structures, des établissements, des chaires universitaires qui se penchent spécifiquement sur ce type de problème?
Alors, sur la partie scientifique, oui. Sur la partie construction, oui. Sur la partie comportementale, non.
Non.
Pas encore. On pourrait le faire, mais c'est un domaine... Ce serait le domaine de l'agression, quoi. Comment les gens réagissent suite à une agression. Parce que le séisme peut être pris comme une agression.
Ouais.
Alors, on a vu que ceux qui ont tendance à courir, c'est les hommes. C'est-à-dire un paniqué, entre guillemets. C'est-à-dire les hommes, pourquoi? Parce que... Depuis tout petit, on dit aux garçons, t'as pas peur, t'as pas mal, t'es un homme, mon fils. Sauf que pendant le tremblement de terre, il a peur comme tout le monde.
Ouais,
Donc là, ce qu'il fait, c'est que la pression est tellement forte qu'il débranche. Et là, il sait plus ce qu'il fait. Donc on a vu des collègues partir, aller dans leur voiture, prendre la voiture et s'en aller. Et au bout d'un moment, il se réveille. Et il se pose la question, mais qu'est-ce que je fais là? Et donc j'explique ça souvent en réunion quand je suis avec des enseignants. Je dis, il n'y a pas de problème, tu fais demi-tour, tu reviens au collège, ça peut nous arriver à n'importe lequel d'entre nous. Parce qu'on a beau... Imaginez-vous un enseignant qui est en train de travailler, qui écrit, la terre se met à trembler, il est en mouvement, il va peut-être avoir du mal même à se rendre compte que la terre est en train de trembler.
Ouais,
il est 14h10, il a donné un contrôle ou un exercice à faire, il y a le colombo ou je sais pas, le courrillon de poisson qui est en train d'être digéré tranquillement, il est à moitié assoupi, comme ça pourrait lui arriver, le séisme arrive, je ne sais pas comment il réagit. Vous voyez, suivant l'état d'esprit dans lequel on sera, réveillé, pas réveillé, endormi, en activité, en train de marcher, des fois les gens marchent, ils sentent rien, suivant l'état où on sera, la réaction sera différente. C'est pour ça que rien n'est écrit d'avance. Vous voyez la difficulté. Et en même temps, on s'est aperçu, je vous parlais de gelouculerie, donc les enfants ont hyper bien réagi, ils en ont fait deux ou trois autres, ça marchait très bien. En septembre, quand la directrice a voulu recommencer, les enfants avaient tout oublié. Donc il a fallu recommencer ce qu'ils avaient fait l'an dernier.
D'accord.
C'est-à-dire que chaque année, on pense que c'est terminé. Non, ouais. Il faut remettre le métier, enfin la fil sur le métier à tisser et recommencer. chaque année, c'est un recommencement. C'est comme ça.
Et les fonctionnaires qui arrivent en Guadeloupe, aux Antilles, hein, pour la première fois, est-ce qu'ils ont du mal à adhérer à ces
Non, je
ne
pense
exercices
pas, parce que c'est l'avantage, c'est qu'on a ce qu'on appelle le plan particulier de mise en sûreté. C'est pour tous les collèges, lycées, écoles de France et de Navarre, c'est un document qui doit être mis en place, et donc l'école, et le collège lycée, est tenue de regarder quel type de risque l'école est susceptible d'avoir.
D'accord, donc tous les collègues,
ils ont entendu parler de ça. Je vous dis ça, j'ai eu une réunion, enfin, les nouveaux arrivants, le rectorat se fait, les reçoit, leur fait une formation, il y a plein de gens très intéressants qui interviennent, et on m'a demandé pendant un petit quart d'heure de leur parler des risques. Et j'ai posé la question sur le PPMS. Il y avait peut-être 200 personnes, je crois que 150 d'entre eux ont dû lever la main, quoi.
D'accord.
Donc c'est quelque chose, ils n'arrivent pas sans savoir que des risques existent. Puis après, on les détaille. C'est vrai que le risque sismique, comme le cyclone, hein, c'est des choses, bon, on s'y attend pas, quoi. Mais pourtant, il y a eu des tempêtes en France, hein, mais un cyclone, c'est pas pareil, quoi.
Ouais, absolument.
C'est autre chose. Pour ceux qui ont vécu Hugo, moi je l'ai vécu, je veux dire, c'est ouf, c'est autre chose, quoi.
Oui, absolument.
Et donc le recteur m'a confié ce dossier, c'était à la suite de Lenny, après le cyclone Lenny. Il m'a dit, monsieur Terrac, occupez-vous des cyclones. Et vous avez vu que depuis que Lenny, il n'y a plus de cyclones.
Grâce à monsieur Terrac.
Grâce à monsieur Terrac. Les cyclones, quand il dit, ah non, il y a Terrac, on va pas en Guadeloupe. Alors je plaisante, mais c'est vrai que je trouve, tu vois, on n'a pas eu à gérer ça. Mais depuis 15 ans, juillet, août, je suis ici, moi j'attends. Hein. Donc, je regarde la météo, non, pas de cyclone, non, pas de... Ah, une tempête, hein, ça. Voilà,
c'est le... Bon, alors je suis un petit peu déçu, nous n'avons pas eu d'appel téléphonique aujourd'hui.
Normal, c'est un peu normal, peut-être que les gens ont écouté aussi, c'est...
Non mais c'est sûr qu'ils écoutent religieusement, c'est le cas de le dire, mais je pensais que c'était le sujet qui concerne directement les enfants,
on pourra le refaire.
Les gens à intervenir.
On ben, le
effectivement, vous êtes toujours le très bienvenu, il n'y a, y a pas
moi,
de problème.
Moi, c'est avec plaisir, hein, c'est, moi, parler de ça, c'est mon... on peut en parler pendant des heures, quoi. Et encore là, j'ai essayé de vous tracer un peu.
Voilà, j'ai dit du mal des auditeurs, c'est pas vrai, il y en a un qui a appelé. Oui, j'écoute.
Oui, excusez-moi, j'ai
bonjour,
une
madame.
Question en cours, c'est une question toute bébête. Il y a deux échelles, Richter et Mercalli, pour le tremblement de terre. Est-ce que ça a changé? Est-ce que Richter, c'est toujours jusqu'à 9 et Mercalli jusqu'à 12? Parce que je me souviens, il y a eu un tremblement de terre, je ne sais pas où, et il disait l'échelle de Richter. Il confondait les deux, Richter 9, qui compte 9, Mercalli 12, c'est ce que j'avais appris. Est-ce que c'est toujours pareil? Merci.
Je vais vous répondre simplement. Alors c'est vrai qu'à notre époque, on parlait donc l'échelle de Richter en disant jusqu'à 9. Sauf que maintenant, on s'est aperçu qu'il y a des séismes dont les magnitudes peuvent dépasser 9. Donc on parle d'échelle ouverte de Richter, sans donner de hauteur. Et on sait aussi maintenant, enfin à peu près, hein, si je vous donne ça à la louche, qu'une faille de 20 km donnerait une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter, une faille de 150 km donnerait une magnitude d'autour de 8, et une faille de 1000 km, comme au Japon ou en Indonésie, on arrive à des magnitudes de 9, 9,5. Et on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Il paraît qu'au Chili, il y a eu un séisme qui avait une magnitude de 10 ou 10,5, je ne sais plus, donc quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, c'est l'échelle, donc on dit échelle ouverte de Richter. Maintenant, on ne dit plus l'échelle de Mercalli, c'est devenu, on parle d'échelle macrosismique, et on parle d'EMS 98. Donc c'est des nouvelles normes, et on a laissé tomber, en matière d'intensité, 11 et 12. Alors je vous dis pourquoi, c'est que ces échelles, en tout cas le constat et pouvoir donner un chiffre en matière d'intensité, c'est à base de calcul, mais aussi à base d'observation. Donc c'est, prenons par exemple, je sais pas moi, le niveau 5, intensité 5, ben ça correspondrait à une forte secousse avec déjà quelques fissures. Mais l'intensité 5 va être déterminée par un calcul et aussi par tous les témoignages que les scientifiques vont recevoir. Et donc quand on était à 11 et 12, ben, il n'y avait jamais de témoignages, puisqu'il n'y avait plus personne. Donc maintenant l'échelle EMS 98, on dit 10 et au-dessus c'est 10 et plus. Il n'y a pas de chiffre, on ne va pas au-dessus de 10. Et pour Haïti, où il y a eu beaucoup de dégâts, ils étaient entre 9 et 10 à peu près, sur l'intensité. Donc l'intensité, c'est ce qu'on va ressentir sur le sol. La magnitude, c'est l'énergie libérée par la faille quand elle casse. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Bien, nous allons remercier cette dame d'avoir donné l'occasion d'apporter cette précision. Effectivement, Christian Tenora-Bazac avait eu l'occasion de parler de ces éléments techniques et de ces échelles de mesure, mais il est bon
de revenir dessus. Ces questions-là, c'est pas quelque chose dont on parle tous les jours. Hein.
Et puis un même tremblement de terre, suivant qu'on soit près ou loin
on aura pas le même ressenti.
Voilà.
C'est pour ça qu'on dit que l'intensité peut être différente. Quoi. Et si vous êtes sur un bon sol, si votre maison a été construite aux normes parasismiques, on l'a vu en Haïti aussi, hein, il y avait des quartiers où tout était par terre, puis il y avait une maison qui tenait à peu près. Elle avait été faite avec une idée de parasismicité, et ça, elle avait plus ou moins tenu. Donc le quartier était autour d'intensité 9, par exemple, et pour la maison, ben, on était autour de 5-6, parce qu'il y avait quelques fissures. Quoi. Et c'est pour ça qu'on dit aux auditeurs de faire des constructions parasismiques.
Ah oui.
Que ces normes-là, maintenant, c'est pas une vue de l'esprit, ça a été étudié, la maison est faite en fonction du sol, sur le... Voilà, c'est ça. C'est pas pour prendre la tête, c'est vraiment très utile, quoi. Très, très utile.
Absolument.
Ce qu'on a besoin, bon, c'est quand même notre maison, notre investissement, donc c'est... vous avez vu les prix maintenant, hein, c'est ouf, c'est pas donné, tout a augmenté, donc si vous faites quelque chose, autant que ça dure, quoi.
Absolument.
Voilà. On sait faire anticyclonique, et maintenant, bah, il faut apprendre à faire parasismique. Et nos architectes savent le faire, et je crois que les artisans ont commencé à être formés. Je ne sais pas si les formations... Je ne me suis pas renseigné sur ça, mais je pense qu'il était prévu qu'il y ait plein de formations de faites. Et maintenant, bah, les maisons en coup de main vont toujours exister, mais on aura du coup de main parasismique.
Oui.
Et pourquoi pas,
on peut l'espérer. Bien, Monsieur Terrac, en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs? Vous êtes globalement optimiste sur le résultat de toutes ces...
Oui, parce que j'ai confiance dans nos compatriotes, quoi. J'ai confiance dans cette réaction, dans leur réaction positive. Alors c'est ça qui est étonnant. On a souvent des réactions positives dans l'adversité.
Oui.
On l'a vu pour Hugo, on l'a vu pour d'autres choses, une espèce d'entraide qui se met en place, qui n'existe pas pour un jour normal, mais pour ces jours-là, sont différents. Donc on pense un peu plus à l'autre. Donc c'est là, hein, mais on est tellement envahi de problèmes et de soucis. On essaie déjà de se dépatouiller dans tout ce qu'on est, tout ce qui nous assaille. Mais le jour où on a une catastrophe, et ça on l'a remarqué, les gens sont... Il y a une solidarité qui se met en place. Moi j'ai confiance, je me sens... pas confiance, parce que le phénomène, j'ai pas, c'est comme tout le monde, j'espère qu'il n'arrivera pas. Sauf que les scientifiques nous l'ont dit, c'est inéluctable.
Oui.
Celui qui sait quand, ben... Voilà, on ne sait pas quand. On sait que c'est oui, on sait comment, à peu près, on commence à le deviner. Mais c'est le quand qu'on ne sait pas.
Ouais.
Si quelqu'un trouve la solution, il est milliardaire demain matin.
Bien, Jean-Marie Terrac, merci infiniment d'avoir consacré ce moment à nos auditeurs.
Avec plaisir.
J'espère qu'on aura l'occasion donc de se retrouver
maintenant que j'ai trouvé le chemin,
sur ce sujet ou sur un sujet voisin. Hein, donc nous sommes à votre disposition. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté, d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée, je crois, vendredi midi, c'est ça? Voilà, vendredi midi. Pour ceux qui ont écouté distraitement ou qui sont arrivés en cours d'émission.
Exactement.
Au revoir et restez à l'écoute de Radio Massabielle. Thank you.
Thank you.